Écho d'économie.
Signature, c'est lundi à Kinshasa, d'un protocole d'accord entre la FEC et l'autorité des régulations de la sous-traitance en RDC. C'est pour mettre en place un cadre de concertation mixte et paritaire en charge de vulgariser la loi sur la sous-traitance ainsi que des mesures d'application auprès de tous les membres de la FEC. Suspension des activités minières de la société SMB. La décision du ministère des Mines fait suite à l'exportation par cette société des minerais provenant du périmètre de la Sakima, une entreprise publique. Nous recevons dans ce magazine Valérie Madianga, chargée de communication du Centre de recherche en finances publiques et développement local Créfeld dans Sigle. Cette structure a mené une étude sur ce qu'elle appelle le fardeau fiscal sur les ménages de la commune de Lancelé, ici à Kinshasa. Bienvenue à tous. L'autorité de régulation de la sous-traitance en RDC et la FEC ont signé ce lundi à Kinshasa un protocole d'accord. Cet accord est le résultat des discussions entre les deux parties afin de mettre en place un cadre de concertation mixte et paritaire en charge de vulgariser la loi sur la sous-traitance ainsi que des mesures d'application auprès de tous les membres de la FEC. Ce partenariat devra également assurer l'accompagnement des deux parties en lien avec toutes les procédures initiées par la RSP, y compris le règlement à l'amiable de litiges sur les réclamations contre les membres de la FEC. Albert Yuma, président de la FEC, explique le bien fondé de cet accord au micro de Daniel Tambinzoni.
Cet accord vient simplement confirmer que pour que ce pays se développe, il faut que l'autorité des régulations, la sous-traitance que le gouvernement a mis en place et à la tête de laquelle le président de la République a nommé Miguel Katem, et la FEC doivent travailler ensemble en toute transparence pour que cette loi s'applique complètement, totalement, dans le respect de ce que le législateur a voulu, faire que les richesses de ce pays profitent aux nationaux. Pour ça, l'autorité de régulation a été mise en place, mais pour que ça fonctionne, il faut que chacun de son côté respecte. La respect et la FEC respectent tous les articles de la loi et s'il y a des difficultés, qu'on se retrouve ensemble. C'est le sens de ce protocole pour qu'au final, la loi puisse s'appliquer facilement, rapidement, pour que enfin, ce que nous espérons tous, que la richesse dont tout le monde parle se retrouve au niveau et entre les mains des Congolais. C'est ça le sens. Il y a des mesures qui ont été prises par l'État, mais pour que ça fonctionne, il faut que celui qui va surveiller ou contrôler et ceux qui doivent appliquer la loi, en tout cas, se mettent d'accord. Au fur et à mesure qu'il y a des problèmes, on les règle à l'amiable, mais surtout que des deux côtés, on fasse comprendre que cette loi ne peut fonctionner que si réellement les gens s'engagent fortement et fermement. En tant que président de la FEC, je vais veiller à ce que les entreprises multinationales, les grandes entreprises qui sont membres de la FEC, soient les premières à appliquer strictement la loi.
En bref, les activités de la société minière Bisunzu SMB SARL suspendues par la ministre des Mines. Une correspondance signée le 15 mars dernier par Antoinette Samba indique que cette décision s'explique par le fait que cette société a exporté des minerais provenant du périmètre de la société Sakima, une entreprise publique. Toujours selon la même source, ce comportement est constitutif des infractions de vol et du recel des substances minérales prévues et punies par les dispositions de l'article 300 du code minier. Le chef de division provinciale de mines est chargé de prendre toutes les dispositions pour mettre en exécution cette décision, conclut cette correspondance. Et puis, lors du dernier conseil de ministres, le président de la République a évoqué l'impérieuse nécessité de revisiter la convention signée entre la RDC et le groupement d'entreprises chinoises GEC en avril 2008. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit après avoir pris acte de conclusion de l'audit mené récemment par l'IGF sur l'exécution de cette convention. Ces conclusions font état de non-respect des dispositions de contrat, de l'inexécution des engagements contractuels et de subjectivité dans certains actes posés par les parties. Il a souligné le caractère inquiétant de cette situation déplorable pour le développement du secteur minier, locomotive de la croissance économique du pays. À cet effet, Radio Capi entame une série de reportages thématiques sur ce contrat minier sino-congolais qualifié à l'époque du deal du siècle. Pour ce premier numéro, Cynthia Bachizi décortique cette convention dite minerai contre infrastructure. Suivez.
À en croire l'IGF, ce contrat qui avait suscité beaucoup d'espoir à l'époque n'a pas tenu sa promesse, celle de doter la RDC d'un éventail d'infrastructures les plus modernes. En 2008, la convention signée prévoit que le groupement d'entreprises chinoises GEC apporte à peu près 6 milliards de dollars américains pour financer les infrastructures. En contrepartie, la RDC offrait ses mines, dont principalement le cobalt et cuivre. Pour mener à bien ce projet, une joint venture est créée, c'est la SICOMINE. La partie congolaise, représentée par la GECAMINE à 32% et 68% pour les entreprises chinoises. Malgré quelques réajustements survenus sur le contrat initial, le taux de réalisation des infrastructures reste très faible. Un hôpital a été construit sur les 32 attendus. L'aéroport de Kavumu et celui de Goma n'ont pas été réhabilités comme promis. Autour de 380 km de routes ont été construites ou réhabilitées sur les 7088 km prévus. Enfin, 0 km de chemin de fer n'ont été construits sur les 380 listés. Dans le secteur de l'énergie, les travaux du barrage hydroélectrique de Katende dans le Kasaï peinent à finir. Entre-temps, la SICOMINE aurait commencé à rembourser l'argent apporté par la partie chinoise pour ces infrastructures qui n'ont pourtant pas été construites dans leur totalité, s'étonne l'IGF.
Projet Transforme, où en est-on après le lancement officiel des activités le 6 mars dernier à Mbujimayi? La question a été posée au coordonnateur national du projet, Alexis Mangala, mais par ailleurs, on garde toutes les structures qui se présentent au nom du projet dans le but de soutirer l'argent aux entrepreneurs. Écoutez.
Nous sommes en train de finaliser actuellement les activités préparatoires de mise en œuvre du projet, notamment le recrutement des agences d'exécution, l'installation des antennes provinciales et toutes les autres activités préalables. Si nous apprécions les initiatives d'appropriation du projet par les acteurs de l'écosystème, nous devons aussi attirer l'attention de l'opinion en général sur le fait que seule l'unité de coordination est habilitée à engager le projet et à mener ses activités selon son propre calendrier, sous l'autorité, bien sûr, du gouvernement national. Les agitations que l'on observe ça et là ne nous concernent donc pas. Les promesses de financement, oui, mais nous précisons que les projets que nous menons ne sont pas des formules de magie qui accordent des financements instantanés. Nous procédons par méthodologie et déroulons notre programme pour un travail structuré dans la durée selon nos propres schémas. Ces schémas passent par une préparation préalable, donc une formation, un renforcement du savoir entreprendre, puis le financement viendra comme complément. Et puis, il y a l'accompagnement, bien sûr, technique et l'encadrement, dans le tout dans un climat des affaires assaini. Il y a au moins une estimation pour le lancement des appels à candidature. Ce sera au quatrième trimestre de cette année 2023. En outre, nous voudrions clarifier les choses. Jusqu'ici, l'UCP n'a pas désigné des ambassadeurs Transforme, comme on l'avait fait dans le cas du COPAPA et PADEMPME. Tous ceux qui se présentent en tant que tels sont des usurpateurs, je m'excuse, des escrocs et des arnaqueurs, parce qu'ils le font sans titre, qualité ni droit. Et à ce propos, nous voulons déjà prévenir que les organisations ou les individus qui procèdent de manière cavalière à des manœuvres de manipulation dans le but de soutirer de l'argent aux pauvres entrepreneurs engagent leur propre responsabilité. Ils courent le risque d'être écartés de toute collaboration avec le projet le moment venu. Pour notre part, vous savez que le processus d'accès aux appuis est public, direct, individuel et concurrentiel. Même nous, l'UCP, ne pouvons pas influencer la sélection. Il suffit d'avoir son dossier qui répond aux exigences du cahier des charges et il sera évalué et retenu par la firme de mise en œuvre.
Notez que Transforme est un projet du gouvernement de la République démocratique du Congo à travers son ministère de l'entrepreneuriat, des petites et moyennes entreprises pour l'autonomisation des femmes entrepreneurs, la mise à niveau des petites et moyennes entreprises et la transformation économique ainsi que l'emploi.
Écho d'économie.
Parlons à présent de cette étude du Centre de recherche en finances publiques et développement local, Krefeld dans sigle. Cette étude révèle, entre autres, ce qu'il appelle le fardeau fiscal sur les ménages de la commune de Lancelay. Ces ménages, selon cette étude, paient également l'éclairage public. Elle recommande aux autorités de la ville de Kinshasa et de la SNEL d'apporter un peu plus de lumière sur cette question. Pour en parler, nous recevons Valérie Mandianga, chargée de communication de ce centre. Il s'entretient avec Paul Matendo.
Valérie Mandianga, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous venez de publier une étude sur la consommation de l'électricité dans la commune de Lancelay. Quel a été l'objet de votre enquête?
Ce travail s'inscrit dans le cadre de contrôle citoyen de l'action publique. Nous travaillons plus sur les questions de développement local. Dans ce travail, nous avons voulu démontrer le fardeau fiscal de ménage dans la ville de Kinshasa. Nous sommes plus attelés à démontrer la fiscalité dans le secteur de l'énergie, parce que nous sommes aussi dans la campagne pour l'accès équitable à l'électricité et de bonne qualité. Nous avons choisi la commune de Lancelay. Comme vous savez, la commune est réputée urbano-rurale. Nous avons voulu savoir quelles sont les causes et qui sont les auteurs de ces actes, donc c'est-à-dire les prestataires de services, quel est leur rôle, comment ils travaillent, quelle est la contribution des ménages dans ce travail, plutôt dans la desserte en électricité. C'est ce que nous avons fait. Alors les objectifs poursuivis de cette enquête étaient de rapprocher la population avec les autorités locales pour voir ensemble comment on peut améliorer la desserte en électricité dans cette commune.
Dans votre étude, vous parlez du fardeau fiscal qui pèserait sur le ménage de cette partie de la ville de Kinshasa. De quoi s'agit-il exactement?
Si nous sommes intéressés au fardeau fiscal de ménage, c'est-à-dire que la contribution des ménages, nous regardons plus ce que les ménages payent à l'État comme taxe, impôt. Donc ici, nous avons plus regardé la part de la fiscalité des ménages dans le secteur de l'énergie, comme je l'ai dit, plus précisément en ce qui concerne l'électricité. Nous avons pu déceler, comme je l'ai dit au début, que le ménage payait trop cher, c'est pourquoi nous l'appelons fardeau, et la qualité de l'électricité qui est desservie à cette population reste à désirer. Ça c'est un. Deuxièmement, on fait payer à cette population de la commune de Lancelay l'éclairage public. Lorsque vous faites le tour de la commune de Lancelay, à part, je crois bien, moins d'un kilomètre de route qui est électrifiée, la grande partie, donc 90% de la commune de Lancelay, n'a pas d'éclairage public. Et vous constaterez que certains quartiers nouvellement lotis n'ont pas d'électricité. Mais ceux qui ont accès à l'électricité, ceux qui payent des factures, lorsque vous regardez en détail, il y a une ligne qui apparaît, éclairage public. La moyenne pratiquement est de 500 francs congolais par ménage et qui paye cet éclairage public. Le troisième élément que nous avons constaté, c'est que il y a des compteurs qui ont été alloués dans le cadre d'un projet financé par la Banque mondiale depuis 2017. Ces compteurs existent. Maintenant, au lieu que la SNEL, après la remise et reprise avec la société ABC qui a implémenté le projet, les agents de la SNEL s'illustrent à la vente de ces compteurs et ils les vendent à un coût exorbitant, entre $100 et $300.
Quelles sont les recommandations que vous formulez au terme de votre enquête?
Étant donné que le manque à gagner pour la population reste énorme, nous avons demandé à ce qu'il y ait des clarifications sur ces dossiers de l'éclairage public. C'est-à-dire qu'il faudrait que la SNEL puisse clarifier. Nous avons reçu des informations de la SNEL qu'elle ne gère pas ses fonds. Ces fonds sont gérés par l'hôtel de ville. Nous voudrions que la SNEL et l'hôtel de ville puissent sensibiliser la population pour savoir, pour leur donner la vraie information où en sommes-nous avec les fonds collectés. Parce que, selon nos estimations, nous sommes pratiquement à des millions de dollars qui sont collectés. Cet argent va où? C'est ça la vraie question maintenant. qui est en train d'être posée. Nous avons invité les agents de la SNEL pour venir expliquer. Ces agents ont brillé par leur absence.
Valérie Madianga, merci.
Je vous remercie.
C'est par ici que prend fin cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi.